Vous m'en direz des nouvelles.
Marjorie Bertin,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Manet et Degas, c'est l'histoire d'un chassé-croisé artistique en plein 19e siècle. La relation tumultueuse de deux peintres, nés à 2 ans d'écart, dont l'amitié teintée de rivalité n'a pas duré. Pour autant, les regarder ensemble, c'est plonger dans une histoire de correspondance artistique, de parallélisme en peinture. Une histoire de l'art, une histoire de vie aussi, contrastée et profondément exaltante. Manet le scandaleux était un moderniste saisissant. Degas sera considéré malgré lui comme l'un des pères de l'impressionnisme. Alors qu'est-ce qui les rapproche? Qu'est-ce qui les oppose? Le musée d'Orsay organise Manet Degas, une exposition inédite qui fait dialoguer ces deux maîtres comme jamais. Des peintures inédites, des toiles restaurées et des correspondances insoupçonnées. Isolde Plouder-Maurer, conservatrice générale au musée d'Orsay, l'une des commissaires de cette exposition somptueuse, est avec nous. Manet, Degas, c'est au musée d'Orsay jusqu'au 23 juillet et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Isolde Plouder-Maurer.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous, d'autant qu'aujourd'hui c'est un grand jour, c'est le jour J, celui de l'ouverture de l'exposition Manet-Degas. 200 œuvres, dont 92 peintures, 55 arts graphiques, alors des pastels, des dessins, des estampes, des gravures, des monotypes, 14 lettres, 2 carnets, un album de portraits-cartes, 2 cuivres et j'en passe. Ça a pris combien de temps de mettre en place une exposition d'une telle envergure ?
Je dirais que ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille sur le projet et le parcours de l'exposition, le synopsis, n'a fait que mûrir. Et je dois dire que le moment de l'accrochage en lui-même a fait encore naître des développements que nous n'avions même pas envisagés avant d'avoir les œuvres au mur.
Et puis il y a de nombreux prêts aussi, notamment avec des musées américains, je crois.
Oui, alors principalement avec le Metropolitan Museum de New York, qui est notre partenaire pour cette exposition et qui accueillera la 2e étape de l'exposition au mois de septembre. Mais oui, nous avons eu des prêts absolument extraordinaires, des prêts américains, des prêts européens, un prêt très exceptionnel du Japon, du musée de Kitakyushu, et puis des prêts de collections privées qui nous ont permis de montrer des œuvres qui, pour certaines, n'avaient pas été vues à Paris depuis 40 ans. La grande exposition Manet au Grand Palais de Françoise Cachin en 1983.
Bah alors, c'est une exposition qui est pleine de surprises et vous commencez fort, question surprise. L'un des premiers tableaux que l'on rencontre, c'est une peinture de Degas de 1868. C'est Monsieur et Madame Édouard Manet. Alors, j'ai noté que Madame était écrit en minuscule d'ailleurs. Et cette peinture, elle est en partie déchirée, du moins découpée par Manet lui-même. Alors, qu'est-ce qu'elle représente pour qu'il l'ait découpée, cette toile de Degas ?
Oui, c'est ce fameux tableau qui nous vient du Japon et sans lequel on aurait eu...
Ah, c'est lui !
Oui, c'est pour ça, de cette ville de Kitakyushu. C'est un tableau absolument fondamental dans l'histoire passionnante et complexe de cette relation entre Manet et Degas, qui comporte de nombreuses zones d'ombre. On ne sait pas exactement à quel moment ils se sont rencontrés et on ne sait pas exactement de quand date ce tableau. C'est sans doute vers 1868. Donc, Degas a réalisé de nombreux portraits de Manet, des portraits dessinés, cette peinture donc qui représente Manet dans son canapé de la rue Saint-Pétersbourg, de son salon où il organisait des soirées musicales, et son épouse, donc Suzanne, qui était une talentueuse pianiste, qui jouait du piano et qui l'écoute. Et en effet, le tableau a été coupé, mutilé par Manet. Et Degas s'en est rendu compte un jour en allant chez les Manet.
Aïe !
Et a été assez furieux et a repris le tableau qu'il a ensuite conservé toute sa vie. Alors pourquoi Manet a-t-il coupé ce tableau ? Nous ne savons pas, nous n'avons pas d'éléments provenant directement des principaux intéressés, mais des personnes qui les ont côtoyés nous ont fourni quelques explications. Apparemment, l'explication la plus simple, ce serait que le profil de Suzanne, qui était assez reconnaissable, avec un nez assez fort, des traits un petit peu empâtés, aurait été trop enlaidie par Degas et Manet n'aurait pas aimé la façon dont Degas avait représenté son épouse. Et effectivement, c'est un geste symboliquement très violent de couper le visage de son épouse et puis aussi de couper le tableau de son ami. Manet lui-même coupait ses propres toiles, mais c'est quand même pas la même chose de couper de travailler sur ses propres œuvres ou de mutiler l'œuvre.
Mais d'autant qu'en plus, ce qui est assez surprenant, c'est que donc on imagine Madame Manet au piano de profil et on voit aussi son époux Manet qui est plutôt avachi sur un fauteuil. Oui. Il n'est pas à son avantage non plus.
Exactement, mais c'est très important ce que vous dites parce que justement, Degas était vraiment connu comme un portraitiste hors pair qui savait saisir les personnes qu'il représentait dans des attitudes particulièrement familières et typiques. Donc, ceux qui ont vu Manet dans ce tableau ont dit que l'effet de ressemblance était vraiment incroyable. Et justement, je pense que peut-être Degas avait-il réussi à saisir Madame Manet au plus proche de ce qu'elle était. Et c'est peut-être ça, en réalité, qui a déplu à Manet, à savoir que Degas avait réussi à saisir chez son épouse, chez l'épouse de Manet, pardon, quelque chose que peut-être Manet lui-même n'était pas parvenu à représenter. Et j'ajouterais que Suzanne, avant de devenir l'épouse de Manet, avait été sa professeure de piano et que peut-être l'effet de séduction était né à ce moment-là. Donc, il y a ce statut d'épouse, de femme mariée. Je ne connais pas d'autres représentations de Suzanne Manet par un autre artiste que Manet. Une sorte d'exclusivité, en quelque sorte. Et il y a un parallèle aussi intéressant, c'est que Manet a fait de nombreux portraits de Berthe Morisot. Oui. Et au moment où Berthe Morisot est devenue sa belle sœur, au moment où elle a épousé le frère de Manet,
il arrête
de la peindre.
On en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, pour rester un petit peu sur les Manet, est-ce que c'est une conséquence que le tableau suivant dans l'exposition soit Madame Manet au piano, qui est daté de la même année? Elle est toujours de profil, mais cette fois, elle est entière et elle est peinte par son époux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se venge?
Oui, alors c'est ce que je vous disais, on ne connaît pas exactement les dates précises de ses œuvres, mais on imagine que très naturellement que Manet a voulu faire peindre ce tableau comme une forme de correction en quelque sorte à l'adresse de Degas. C'est exactement dans la même pose, c'est le même décor, hein, on voit les lambris du salon, le même canapé blanc houssé à l'arrière-plan. Donc c'est très intéressant de voir une sorte de réappropriation de l'image de son épouse par Manet. Et encore un élément passionnant de l'histoire, c'est que quand Degas a récupéré son tableau coupé, il l'a gardé toute sa vie et il l'a exposé dans son salon. On voit une photo, un autoportrait de Degas où il se prend en photo et on sait qu'il ne laissait vraiment rien au hasard. Donc avec au-dessus de sa tête ce fameux tableau coupé qui était encadré de telle manière qu'on ne voyait pas qu'il avait été coupé, mais que le cadre passait sur le visage de Suzanne. Mais après cette date-là, donc je ne sais pas, peut-être une quinzaine, voire une vingtaine d'années après la mort de Manet, Degas va avoir le projet de rétablir Madame Manet. Il va ajouter une bande de toile à ce tableau, une bande de toile vierge, et finalement, il ne mettra jamais ce projet à exécution. Donc, on se retrouve devant un tableau absolument fascinant, avec une pièce manquante, qui est un peu à l'image de toute l'énigme, de tout le mystère qui entoure la relation de Manet et de Degas.
Oui, puisqu'il est très troublant dans cette relation aussi. Un autre paradoxe, c'est qu'on ne connaît aucune représentation de Degas par Manet, tandis que Degas a fait de nombreux portraits de Manet, lui.
Oui, c'est un déséquilibre assez frappant qu'on note. C'est vrai que Degas a fait de nombreux portraits de Manet, des portraits dessinés, gravés. On sent qu'il tourne autour de Manet. Dans ses portraits, il étudie différentes poses. Il le représente comme un dandy avec son chapeau haute forme. Après, le chapeau tombe par terre. Après, le chapeau disparaît complètement. Donc, c'est très intéressant. Mais en fait, finalement, au moment où Degas représente Manet, c'est-à-dire dans les années 1860, il n'est pas le seul, parce que Manet, c'est vraiment le principal maître de la jeune école de peinture. Et il rayonne véritablement auprès de tous les jeunes peintres que sont Fantin Latour, Basile. Donc, Degas fait un peu comme les autres. Et il est dans ce... Il est touché par ce rayonnement. Manet, dans ces années-là, est très connu. Il a exposé au salon, il a fait créer des scandales par ses œuvres au salon, alors ouais. Que Degas est un total inconnu.
Mais il va devenir célèbre.
Thank you.
Espagna de Chabrier dans VMDN sur RFI. Vous les évoquiez à l'instant, Isolde Plodermacher, les débuts de ces deux grands peintres. Alors Manet est né en 1832, Degas en 1834, tous les deux à Paris. Ils viennent d'un milieu aisé, d'une bonne famille, comme on disait dans le temps, où il n'est pas très bien vu d'être peintre. Et alors tous deux vont faire des études de droit parce que c'est ce que voulaient leurs parents. Et ils ne vont pas se former aux beaux-arts, mais auprès de peintres reconnus. Est-ce que c'est une pratique répandue à l'époque, quand on veut devenir peintre, que de ne pas aller aux beaux-arts ?
Non, c'est déjà assez singulier comme choix. Alors, dans le cas de Degas, c'est assez particulier, parce qu'on sait qu'il est passé en réalité par les beaux-arts, mais de manière très brève. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, en effet, leur milieu social, qui est celui de la bourgeoisie parisienne aisée, issue de la monarchie de Juillet, leur permet justement de faire ce choix de demeurer en marge des institutions habituelles et officielles. Le parcours classique pour un jeune artiste était en effet de passer par l'école des beaux-arts, de tenter d'obtenir le prix de Rome et ensuite d'exposer au salon et d'avoir des œuvres acquises par le gouvernement. Donc là, bien qu'ils n'étudient pas à l'école des beaux-arts, ils vont choisir des maîtres tout à fait reconnus et bien établis. Manet va faire le choix de Thomas Couture, qui est un artiste connu notamment pour ses convictions républicaines, ce qui est intéressant par rapport à la sensibilité politique de Manet et de sa famille. Et Degas, lui, va faire le choix d'élèves d'Ingres, de Lamotte, Louis Lamotte, et aussi de Barrias. Donc ils vont tous deux aussi ils vont rester longtemps dans l'atelier de ses maîtres et ils vont aussi faire des voyages pour parfaire leur formation, notamment en Italie. Donc en fait, ils vont avoir une formation finalement assez proche d'un étudiant à l'école des beaux-arts, mais en marge de cela.
Et alors, ce qui est surprenant, vous évoquiez le salon à l'instant, c'est que Manet va faire son entrée au salon en 1861 avec un portrait très classique de ses parents. Alors, on va en parler, mais d'abord, qu'est-ce que ça représente d'être admis au salon à l'époque ? Pourquoi c'est si important ? Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, d'ailleurs. C'était quoi, le salon ?
Le salon, c'était véritablement, pour les artistes de l'époque, le seul moyen véritable de se faire connaître à un public très large, donc d'être vu par des visiteurs très nombreux. C'était gratuit le dimanche aussi, donc tout le monde pouvait se rendre au salon. Ça n'avait lieu qu'une fois par an, et parfois même tous les deux ans, en fonction des années. Et aussi, c'était le moyen d'être recensé par les critiques, par la presse, d'être commenté, observé, et puis d'être acheté, soit par directement par le gouvernement, soit par des particuliers qui pouvaient commander à des artistes dont les œuvres avaient été particulièrement remarquées, des œuvres pour leur propre collection.
Et alors Manet, dont on a en tête à ce moment-là les nus qui vont faire scandale comme Olympia et le déjeuner sur l'herbe 3 ans plus tard. Donc lui, je disais, il arrive avec cette toile qui est on ne peut plus classique. Alors c'est un portrait qui est magnifique, vraiment saisissant de réalisme, de ses parents. Pourquoi ce choix, somme toute, classique ? Est-ce qu'il était stratège ? Est-ce que c'était un choix intime ?
Alors, il avait déjà été refusé au salon auparavant. Donc, effectivement, il commence en 1861 avec à la fois le portrait de ses parents et aussi le musicien espagnol, le joueur de guitare, qui lui a été beaucoup plus remarqué que le portrait de ses parents en réalité, hein, qui le place tout de suite sur une renommée importante. Alors, le portrait de ses parents, il faut préciser qu'il n'apparaissait pas au salon sous le titre de portrait de Monsieur et Madame Manet, mais de Monsieur et Madame M, point de suspension. Donc, c'était pas déclaré comme étant le portrait de ses parents. Mais je pense que cela participe de la part de Manet d'une volonté de reconnaissance de la part de ses parents, justement, d'avoir leur assentiment, puisqu'il avait nécessairement exposé avec l'accord de ses parents. Et quelque part, c'était de leur montrer, de leur prouver qu'il pouvait véritablement embrasser cette carrière artistique.
Et quant à Degas, il va y accéder en 1865, mais il va avoir moins de succès. À ce moment-là, je me demandais, est-ce qu'ils se connaissent déjà ?
C'est une bonne question, on ne le sait pas. On sait qu'ils se sont rencontrés dans les années 1860 et ils se seraient rencontrés au musée du Louvre. Et ça, c'est très, très important du point de vue symbolique aussi. Alors, sans doute y a-t-il une part de vérité et une part de légende dans cette histoire qui a été en tout cas validée, si je puis dire, par Degas plus tard. Donc, il se serait rencontré au musée du Louvre devant une œuvre de Velázquez. En fait, Degas était en train de copier cette œuvre de Velázquez en la copiant directement sur une plaque de cuivre pour en faire une gravure. Et pour faire une gravure, habituellement, on faisait un dessin que l'on traduisait sur une plaque de cuivre en atelier. Donc c'était particulièrement audacieux d'un point de vue technique de s'en prendre directement à la plaque de cuivre devant l'œuvre. Et c'est justement ce qui aurait attiré Manet, c'est l'audace technique de Degas. Et c'est comme ça qu'ils se seraient rencontrés et qu'ils seraient devenus amis donc au musée du Louvre. Et donc sans doute est-ce intervenu autour de 1865 et du scandale d'Olympia. En tout cas, ce qui est absolument certain, c'est que Degas a vu l'Olympia de Manet. Il en a même possédé une copie par Gauguin qu'il a achetée à la fin de sa vie, après la mort de Manet en tout cas. Et il était impossible pour un artiste de passer à côté d'Olympia au salon de ne pas voir Olympia au salon de 65. En revanche, est-ce que Manet a vu le tableau de Degas?
Mais oui, c'est la question.
Rien n'est moins sûr à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de cette relation faite d'amitié et de rivalité, on a beaucoup de propos rapportés par les personnes qui ont côtoyé Manet et Degas, et que Manet aurait dit « Degas était encore en train de peindre Sémiramis pendant que moi je peignais le Paris moderne ». Et Sémiramis, c'est un tableau qui est exactement dans la même veine que la scène de guerre présentée au salon de 1865, et qui montre que Degas aurait pu choisir un parcours artistique totalement différent, devenir un peintre d'histoire un peu ésotérique, à la manière de Gustave Moreau, par exemple.
Ouais.
Et voilà, parce que son tableau de 65, qui effectivement n'est pas du tout remarqué, il est quand même très étrange.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Scène d'enfant de Schumann. Alors ensuite, dans cette exposition merveilleuse, on pénètre dans la salle dédiée aux portraits. C'est un genre prédominant sous le Second Empire. Ce qui m'a frappée, c'est la proximité thématique des compositions chez Manet et Degas. Elles se ressemblent beaucoup, alors vous mettez en regard, côte à côte, des sujets assez proches, notamment deux femmes à l'oiseau, peintes à quelques années d'écart. Alors, la première à gauche, c'est la, si mes souvenirs sont bons, c'est la jeune dame, la femme au perroquet de Manet. Elle est en long peignoir rosé, debout, à côté d'un perroquet sur un perchoir. Chez Degas, la femme sur une terrasse, elle est drapée d'un beau châle vert canard. Il y a des fleurs, il y a deux ibis dont teint qui semble un peu frôler son visage. Et la peinture de Degas, elle est nimbée de douceur. On a l'impression que ça est estompé un petit peu. C'est beaucoup plus intime finalement que chez Manet, où les poses sont majestueuses, où les couleurs sont déjà très très vives. Enfin, on peut même se demander si ça préfigure pas le fauvisme avant l'heure. Elles viennent d'où pour Manet ces poses ?
Manet est vraiment un artiste pétri de tradition. En fait, il a énormément étudié au musée du Louvre et lors de ses voyages en Italie. Et on peut reconnaître quasiment dans chacune de ses œuvres un modèle ancien qu'il a précédé et qu'il actualise à chaque fois. Et d'ailleurs, Olympia et Le déjeuner sur l'herbe sont l'une la reprise d'un modèle de Titien et l'autre d'un modèle de Raphaël. Mais donc, c'est ça qui est assez paradoxal dans la dimension révolutionnaire de Manet, c'est qu'il a toujours des modèles. Et justement, Degas dira à son propos plus tard qu'il n'a jamais su qu'imiter. Et quelque part, c'est vrai, il imite en s'imprégnant et en faisant sien, faisant sienne les œuvres des autres. Et dans l'exemple que vous citez, alors on est face à deux œuvres qui sont d'un statut assez différent, puisque la jeune dame en 1866, connue aussi comme la dame au perroquet, où Manet reprend son modèle favori de l'époque, Victorine Meurent, qui avait déjà posé pour Le déjeuner sur l'herbe et Olympia. C'est un tableau qu'il présente au salon, donc qui a été beaucoup vu, beaucoup commenté, et où on voit en effet cette femme dans un magnifique peignoir rose avec ce perroquet. Et c'est une forme de réponse en fait à un autre artiste cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas qu'avec Degas, il y a bon, là, d'ailleurs, Manet dialoguait très peu avec Degas. C'est plus tard que le dialogue va vraiment s'instaurer. Il était plutôt en vis-à-vis de Courbet, Gustave Courbet, qui avait lui-même réalisé Une femme au perroquet, présentée lors d'un salon précédent. Et en fait, l'œuvre de Degas à laquelle vous faites référence, La jeune femme aux ibis, c'est une œuvre plus ancienne que celle de Manet, mais qui, à l'origine, représentait uniquement une jeune femme drapée sur une terrasse, qui est une figure somme toute assez banale. Et Degas, on le sait, a rajouté plus tard ces figures d'ibis qui se collent comme ça à la jeune femme et qui ajoutent une dimension complètement mystérieuse, presque pré-symboliste, assez proche de la peinture pré-raphaélite anglaise aussi. Et alors, on sait qu'il l'a ajouté dans un second temps, on ne sait pas quand exactement, mais il est tentant d'imaginer que c'est en voyant peut-être le tableau de Manet qu'il a choisi de représenter cette femme aux côtés de deux oiseaux, sachant que dans l'un de ses nombreux carnets qui sont conservés à la Bibliothèque nationale, il a fait un croquis d'après la femme au perroquet de Manet, justement.
Et puis alors, ce qu'il y a de merveilleux avec la peinture, c'est qu'on peut se raconter un petit peu ce qu'on veut. Je me demandais si Degas n'était pas plus mélancolique que Manet.
Oui, vous avez raison de dire qu'on peut se raconter beaucoup de choses avec les peintures de Degas.
C'est très subjectif,
et de Manet. C'est des peintures, particulièrement dans le cas de Degas, sans doute, qui ont une dimension narrative très forte, sans toutefois que l'on puisse jamais savoir de quelle histoire il s'agit exactement. Il y a toujours une part très énigmatique. On sent toujours un climat particulier dans ses œuvres, lié à la composition, à la mise en scène, au cadrage. Et effectivement, il y a toujours une forme de mélancolie ou d'absence ou de quelque chose qui d'irrésolu finalement dans ses œuvres. Et la femme aux ibis a vraiment un pouvoir presque magnétique qui fait que sans doute elle a été choisie comme l'un des visuels de l'affiche de l'exposition.
Et alors l'absence, justement, l'irrésolue, c'est au cœur de Portrait de famille, qui est, je crois, un tableau restauré qu'on peut voir.
Oui. Un tableau qui est du musée d'Orsay, de la collection du musée d'Orsay, tout à fait exceptionnel et qui vient d'être restauré grâce à un mécénat pour l'exposition.
Alors, qu'est-ce qu'on y voit sur ce tableau ?
Alors, c'est un tableau important pour Degas. Il y a passé beaucoup de temps à travailler sur cette œuvre. Donc, c'est, comme le titre l'indique, un portrait de famille. En fait, il l'a présenté au salon de 1867, où il présentait deux œuvres qui avaient le même titre, Portrait de famille. Et justement, on n'était pas sûr jusqu'à très récemment qu'il s'agissait effectivement de ce tableau qui est pourtant monumental, mais là encore, au salon, personne n'en a parlé. Et donc, il s'agit d'une représentation de la famille, d'une partie de la famille italienne de Degas, puisque le grand-père de Degas qui vivait en France a quitté la France pendant la terreur sous la Révolution pour s'installer à Naples. Et donc, il y a toute une branche paternelle de la famille de Degas qui est installée en Italie. Et là, il s'agit en l'occurrence de la sœur de son père, Laure Bellelli, qui pose avec ses deux filles et son mari, Gennaro Bellelli, que l'on voit à droite du tableau, qui, assez curieusement, ne fait pas face au spectateur, mais est assis sur un fauteuil dont le dos est tourné et qui a l'air plongé dans des pensées un peu lointaines, qui a l'air assez morne, pour tout dire. Degas parle beaucoup de sa famille dans sa correspondance de cette famille-là. Il était très proche de sa tante et elle a une attitude très inspirée de la peinture ancienne aussi, la peinture de Van Dyck ou de peintre de Velázquez.
Très hiératique, mais très lointaine.
Très lointaine. Elle enlace une de ses filles. Elle a un regard comme ça, un petit peu de dramatique. On voit à côté d'elle un portrait de son père, donc du grand-père de Degas qui venait de mourir. Et donc ce tableau, on sent une grande tension psychologique. On sent des grandes tensions au sein du couple formé par sa tante et son oncle, qui sont quasiment à l'opposé dans l'espace de la toile. Alors cet oncle Gennaro, cet oncle napolitain, avait pris part aux journées 1848 à Naples et donc était en exil avec sa famille à Florence. Donc là, il est vraiment représenté comme un exilé, en quelque sorte. Et en fait, on voit aussi dans, dès l'année de ce tableau des choses très novatrice dans l'art de Degas, à savoir un cadrage très étonnant avec ce petit chien qu'on peut voir en bas à droite sur un tapis tout à fait extraordinaire. Ce chien est coupé, on ne voit pas sa tête. Et puis un arrière-plan très complexe composé de miroirs, de tableaux dans le miroir. Et puis des zones, des parties du tableau qui sont extrêmement détaillées, poussées et d'autres vraiment laissées presque à l'état d'esquisse. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera toujours dans l'art de Degas, même dans une période plus tardive.
Et alors, d'un salon à l'autre, ce qui va rassembler ensuite Manet et Degas dans les années 60, c'est le salon des Morisot. Alors, sa figure de proue, c'est la peintre impressionniste Berthe Morisot, qui va épouser l'un des frères de Manet. Écoutons leur fille, Julie Morisot-Manet.
Ma mère me racontait les réceptions du soir chez ma grand-mère, où venaient Baudelaire, Mallarmé, Charles Cros, Tevas, Puvis de Chavannes, Bosque chantait dans sa campagne de la guitare, Chabrier jouait avec un entrain en diable et la danse macabre de Saint-Saëns. Ma tante Suzanne Manet avait une interprétation tout à elle de Chopin. Quant à Édouard Manet, mon oncle Édouard, ainsi que je l'appelais, son esprit d'à-propos était étincelant. Ce gai, ce blond Manet, dont la grâce émanait, citait Mallarmé d'après Baudelaire.
Julie Morisot-Manet, une archive précieuse puisée par Pierre Plantier chez nos confrères de France Culture dans VMDN sur RFI. Alors Manet consacre plusieurs portraits à Berthe Morisot, Isolde Plodermacher. Parmi les toiles que vous avez choisi d'exposer, il y a le balcon, une peinture terriblement émouvante pour moi, très réaliste. On y voit Berthe Morisot, une jeune violoniste, Fanny Claus, et le peintre Pierre Prince. C'est la première fois que Manet peint Berthe Morisot. Ils sont trois. Il y a un petit chien aussi et on ne voit qu'elle.
Oui, c'est la première fois qu'il la représente et effectivement, elle a ce regard de femme fatale. J'emploie ses
elle
propres
est
termes parce qu'elle elle rapporte à sa sœur son amusement de voir ainsi son portrait. Enfin, c'est un portrait, mais justement, c'est un tableau difficile à placer dans une catégorie bien définie. Justement, ce titre, Le balcon, est très énigmatique finalement pour les contemporains de Manet qui ne savent pas très bien s'ils sont en face d'un portrait, d'une scène de genre, d'une scène dans laquelle on ne comprend pas très bien ce qu'il se passe. On voit Berthe Morisot accoudée sur le balcon avec son regard très profond, un éventail à la main. Donc déjà, Manet la représente très inspirée de la peinture espagnole hein, et particulièrement de Goya dans ce cas précis, hein, les maras de Goya. Et ce tableau est le premier d'une longue série de déclinaisons de Berthe Morisot par Manet qui témoigne de la relation tout à fait singulière, exceptionnelle qui pouvait unir Manet à Berthe Morisot.
Mais il va la peindre souvent, alors il va la peindre étendue, allongée, il va la peindre en deuil à la mort de son père derrière une voilette. On la découvre un peu mutine aussi dans Berthe Morisot à l'éventail où elle se cache le visage tout en nous révélant sa cheville, pour pas dire son mollet. Qu'est-ce qu'elle représente pour lui? Qu'est-ce qu'elle lui permet? Qu'est-ce qu'elle lui apporte? Parce qu'on sait aujourd'hui l'importance qu'elle a eue, Berthe Morisot, mais à ce moment-là, est-ce qu'elle va l'inspirer? Est-ce qu'elle va lui ouvrir des portes?
Le salon de la famille Morisot, parce qu'il y avait Berthe, qu'il y avait ses sœurs, sa mère, son père, son frère. Enfin, ça a été un lieu très important pour toute une sociabilité artistique, donc très fréquenté par Manet, mais aussi par Degas. Degas va peindre l'une des sœurs de Berthe Morisot aussi. Et on a beaucoup de témoignages très précieux qui proviennent directement des écrits, justement, de Berthe Morisot, de sa mère, de sa sœur. Et c'est des témoignages vraiment essentiels pour connaître la relation de Manet et de Degas. Je pense que cette relation de Manet avec Berthe Morisot était d'abord celle de deux personnes, mais aussi de deux artistes. Et le fait que... D'ailleurs, c'était le cas aussi de... Enfin, c'est complètement sur un autre plan, mais tout de même, Victorine Meurent, que Manet a beaucoup représenté aussi dans les années 1860, était elle-même peintre. Et je pense que le fait que Berthe Morisot était peintre faisait qu'elle était peut-être plus à même qu'un autre modèle de savoir comment prendre la peau, savoir exactement ce que l'artiste, ce que Manet souhaitait obtenir d'elle. Et qu'il y avait à la fois cette complicité amicale et très... qu'on a pu parfois imaginer plus qu'amicale, mais surtout cette complicité, je pense, artistique. Et on voit vraiment, en effet, dans certains tableaux, dont celui à l'éventail, qu'elle joue avec Manet, qu'elle joue avec sa propre image et qu'elle aime essayer certaines poses.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés où mon esprit, où les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillants.
Invitation au voyage de Duparc sur un poème de Baudelaire extrait du Temps de rêver, le tout nouvel album de Noémie Westphal avec le quatuor Dutilleux dans VMDN sur RFI. Alors, le cercle Morisot sera l'un des berceaux de l'impressionnisme. Pourquoi Manet, contrairement à Degas, ne va pas rejoindre cette aventure ?
Oui, alors ça, c'est une des grandes, un grand terrain d'opposition entre Manet et Degas, l'impressionnisme, dont pourtant Manet comme Degas ont été qualifiés de deux chefs de l'école impressionniste par des contemporains comme George Moore. Manet, malgré l'invitation que lui a faite Degas à exposer avec les impressionnistes, a toujours refusé d'exposer avec eux, bien qu'il s'agisse de ses amis, de peintres avec lesquels il avait beaucoup de valeurs en commun. Mais Manet est un homme essentiellement public et il va toujours essayer, selon ses propres termes, de vaincre le salon. Il veut rester dans l'arène officielle, il veut montrer ses œuvres. Il réalise souvent des œuvres qui ont une forte dimension politique et pour lui, c'est très important d'être vu et de faire parfois même un véritable acte politique en exposant. Donc il ne va jamais renoncer à ça, bien qu'il soit très souvent, qu'il arrive régulièrement qu'il soit refusé, bien qu'il soit très souvent caricaturé, raillé, critiqué défavorablement. Et il était très attentif à la critique. Contrairement à Degas qui, lui, n'avait aucun intérêt pour les journalistes et les méprisait cordialement. Manet, lui, on le sait, collectionnait les coupures de presse qui le concernaient, par exemple. Il était très attentif à tout cela. Et donc, Degas, lui, va très vite se détourner du salon, sans doute aussi parce que ses œuvres n'ont jamais été remarquées au salon. Il s'est plaint, il a même écrit à un journal pour dire que l'accrochage du salon, ça n'allait pas du tout, qu'il fallait davantage impliquer les artistes dans cet accrochage. Et finalement, il s'est dit qu'il fallait faire un salon indépendant, un salon réaliste. Et c'est comme ça qu'il a été l'un des principaux meneurs de ce groupe qu'on a ensuite qualifié de groupe impressionniste. Et donc, il a exposé à toutes les expositions impressionnistes l'exception d'une, et sans jamais réussir à rallier Manet. Mais quand on regarde la peinture de l'un comme de l'autre, finalement, Manet, par sa technique, dans certains des paysages qu'il a pu réaliser, oui, est beaucoup plus proche du groupe impressionniste, d'un Monet ou d'une Berthe Morisot, que ne l'est Degas, qui finalement va, par exemple, très peu pratiquer l'art du paysage.
Puis alors après, pour continuer de cheminer dans l'exposition, on bascule du côté des Parisiennes avec une section qui est dédiée aux femmes dans les cafés. Alors ça, ce sont ces peintures très célèbres que beaucoup d'entre nous connaissent, avec des serveuses, des chanteuses, des grisettes, des mondaines. On a l'impression qu'elles sont prises sur le vif. À ce moment-là, on est aussi en plein naturalisme, en littérature. Manet peint d'ailleurs une femme nimbée de bleu, en jupon et corset, qui se pomponne devant un miroir. La toile s'appelle Nana, comme le roman de Zola. C'est un clin d'œil au naturalisme, enfin du moins à Zola.
Alors, pour être très précis, le tableau s'appelle Nana et Zola n'avait pas encore publié le roman du même titre, mais le personnage de Nana apparaissait déjà dans l'Assommoir. Alors la relation en tout cas de Manet à Zola, elle est fondamentale puisque elle date d'une décennie auparavant. Zola a été l'un des principaux défenseurs de Manet dans les années 1860. Il a même démissionné de son journal pour avoir pris la défense de Manet, et ce couple Manet-Zola va se soutenir l'un l'autre pour parvenir à une forme de célébrité. Donc finalement, effectivement, Manet va toujours côtoyer Zola dans les cafés qu'il fréquente. Alors dans les années 60, c'est le café Gerbois. Après 1870, c'est le café de la Nouvelle Athènes, où Degas est aussi infidèle. Pour répondre précisément à votre question, moi je pense que c'est l'inverse en réalité, puisque le tableau de Manet étant antérieur au roman de Zola, en fait on retrouve dans un passage du roman une description qui correspond presque mot pour mot à ce que l'on voit dans le tableau de Manet. C'est le moment où le comte Muffa tombe amoureux de Nana, c'est au moment où elle est en train de se maquiller, et quand elle pose le maquillage sur son visage, alors il tombe véritablement sous son charme.
On apprend de belles pépites. Et alors, pendant toute cette section, petit à petit, on se déplace vers les nus. Là, il y a des femmes, on voit des pastels, des peintures à l'huile, des dessins magnifiques. Isole Plaudermacher, vous qui avez consacré une exposition à Orsay au titre très balzacien, aussi Splendeur et Misère en 2016, je sais que vous êtes très sensible aux représentations des femmes. Qu'est-ce qui distingue Manet et Degas dans leur représentation des femmes? Est-ce que c'est un érotisme qui joue pas au même endroit?
Oui, nous avons consacré une section qu'on a appelée masculin-féminin, justement, aux relations entre hommes et femmes, en évoquant à la fois ces relations que pouvait avoir Manet, l'homme, avec les femmes, et Degas, l'homme, avec les femmes, et comment ce type de relation pouvait se traduire dans leur peinture. On sait que Manet était un homme extrêmement à l'aise avec les femmes, qu'il adorait être entouré d'une société féminine, qu'il était aussi épris de mode. Donc, il avait cette image de séducteur. Il était marié, donc, puisqu'on a déjà parlé de Suzanne, oui, avec une vie de couple tout à fait épanouie. Et à l'inverse, on a chez Degas beaucoup de mystères pour ce qui concerne sa vie privée. Il n'a pas été marié, on ne lui connaît quasiment aucune relation. Et on sait qu'il souffrait de cela, parce que ses lettres en témoignent. On sait qu'il aurait aimé être marié, avoir des enfants, qui parle des souffrances de son cœur. Et on sait qu'il était très mal à l'aise avec les femmes. Et ça, dans la relation Manet-Degas, il y a plusieurs anecdotes comme ça, dont l'une rapportée par Berthe Morisot, qui montre que Manet se moquait un petit peu de cet inconfort que pouvait avoir Degas.
Mais il est assez rosse quand même, oui, avec Degas, Manet. Hein.
Oui, il était assez rosse avec Manet et vice-versa. Et ce qui est fabuleux, c'est de voir en effet dans leurs œuvres, ces rapports des hommes aux femmes complètement différents. Chez Manet, on a toujours une figure féminine qui, en général, domine complètement la situation. On peut le voir avec Nana, justement, dont on vient de parler, mais dans le tableau Olympia aussi, on voit une femme, une prostituée, une courtisane qui a la pleine maîtrise de son corps et qui regarde très... très brutalement, finalement, le spectateur, sans détour et sans essayer de passer par la séduction ou un sentimentalisme qu'on trouve dans les Vénus contemporaines. Il n'y a pas ce détour de la fable. Et Manet, justement, de manière assez intéressante, représente des courtisanes, alors que Degas, lui, lorsqu'il s'intéresse au sujet de la prostitution, va représenter des scènes de bordel, et c'est pas du tout la même chose, justement, une courtisane et une prostituée de maison close. Et dans beaucoup de tableaux de Degas, y compris la famille Bellelli qu'on vient d'évoquer, on sent toujours un malaise, un déséquilibre, des relations troublées entre un homme et une femme dans un couple. Et le tableau le plus évocateur à ce titre est celui que l'on connaît sous le titre d'Intérieur, dit aussi le viol du vivant, oui, de Degas. Un tableau à l'atmosphère très inquiétante, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe ou ce qui s'est passé, mais qu'on a souvent mis en relation avec la littérature naturaliste, justement.
Sortons un petit peu des alcôves et de l'intimité. Merci beaucoup Isolde Plodermacher d'avoir été avec nous pour nous parler de cette exposition sublime Manet Degas à découvrir à Paris au musée d'Orsay jusqu'au 23 juillet. Nous étions en train d'écouter Kat Janine qui chantait Mama dans VMDN sur RFI. Cette chanteuse, elle est née au Burundi. Elle a vécu en Belgique, ce qui n'est pas sans lien avec l'histoire de Consolat Siperius. Laure Broulard est allée voir son exposition Un retour au théâtre Wallonie-Bruxelles, une expérience intimiste et immersive dans la quête identitaire de cette comédienne belge d'origine burundaise, adoptée illégalement en Belgique.
Bienvenue dans cette expo-installation qui s'appelle Un retour. C'est simplement un espace qui me prépare à mon retour au Burundi, mon pays natal, 28 ans plus tard. Je suis une adulte adoptée et à l'âge de 7 ans, je suis arrivée à Moukron. Et depuis 2018, j'ai commencé ma quête identitaire.
Elle était Consolat Ndayi Saba. Elle est devenue Consolat Siperius. Aujourd'hui, elle préfère Consolat tout court. Dans l'intimité obscure de la salle des décors du Théâtre National Wallonie-Bruxelles, la comédienne a érigé deux grandes sculptures de tissu avec différentes nuances de vert. Sur le sol, des rubans s'entremêlent comme des racines d'arbres centenaires. En fond sonore, l'orage et le souffle du vent. Dans une boîte à chaussures, des souliers de petite fille, un passeport burundais et le souvenir d'un lieu, Kuitaba.
Pour moi, le Burundi, c'est la forêt Kuitaba. C'est l'endroit où j'ai vu la mort, c'est l'endroit où j'ai vu mes parents se faire massacrer. Ces deux sculptures que vous voyez, ben en fait, c'est la nouvelle forêt. Une forêt plus grande que Kuitaba, une forêt faite de nouvelles racines.
Consolat a perdu ses parents dans la vague de massacres à caractère ethnique qui ont suivi l'assassinat du président burundais Melchior Ndadaye en 1993. Quelques années plus tard, elle est adoptée par une famille belge via l'association Adoption sans frontières. Depuis accusée de vol d'enfants, elle ne savait pas qu'elle avait encore de la famille au Burundi jusqu'à ce que sa sœur la retrouve.
On avait dit que j'étais issue d'une famille d'une douzaine d'enfants, que tout le monde était mort et que j'étais la seule survivante. Donc je me suis construite en fait sur une base remplie de trous. Et lorsqu'il y a 2 ans, j'ai été contactée donc par une dame qui m'a dit sans filtre « Bonjour, je suis ta grande sœur ». Et cette femme est venue me raconter l'autre version, qui était que je n'avais jamais eu 10 frères et sœurs ou 12, mais qu'on était en fait une fratrie de elle, qui a 6 ans de plus que moi, Alice, et Syriaque, qui a 10 ans de plus que moi. Et toute ma vie, je me suis dit, mais il n'y a personne sur Terre qui a le même sang que moi.
La comédienne utilise l'art pour se guérir, mais aussi pour ouvrir le débat sur les traumatismes que peut générer l'adoption internationale, avec un risque d'effacement du passé et de la culture de l'enfant. Pour cette exposition, elle a rencontré d'autres jeunes adultes adoptés et présente leurs portraits ainsi que leurs témoignages. Un projet intime qui se veut collectif et politique, puisque l'artiste y évoque également le racisme et l'héritage colonial de la Belgique.
Ma réparation ne peut pas être cachée ou vécue toute seule dans un intime, parce que mon histoire concerne tellement, tellement, tellement d'autres personnes qu'en fait je suis en train de faire une sorte de réparation collective. C'est très important aussi d'écrire l'histoire d'un point de vue autre que celui qui a été imposé aussi, pour déplacer justement le regard et je crois que ça c'est vraiment très très important en fait.
Prochaine étape, le voyage au Burundi en juillet prochain. Consolat a déjà prévu de faire de cette expérience de retour une pièce de théâtre dans le cadre de son projet Ichirori, ou Miroir en Kirundi.
Un reportage passionnant de Laure Broulard dans VMDN sur RFI. Alors, on se retrouvera demain avec un roman. Le maître du suspense français, Michel Bussy, sera avec nous pour nous parler de 3 vies par semaine, son nouveau roman qui sort aux presses de la Cité. Merci à Pierre Plantier qui a réalisé cette émission, à Baptiste Antoine qui l'a préparée. Dans un instant, vous pourrez retrouver un nouveau journal sur RFI. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.